Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Lali Walker. Lali Walker, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Donc, en ce premier semestre, vous avez deux actualités, deux livres. Le premier, Les Survivantes aux éditions Actes Sud. Et le deuxième, paru en novembre dernier, mais très récemment, Au Malheur des Dames, aux éditions Paris Gramme. On verra d'ailleurs qu'il a une actualité brûlante, ce livre.
Juste une petite chose, je vous entends très très loin, est-ce normal?
Alors est-ce que vous m'entendez un peu mieux comme ça?
Un petit peu mieux.
Voilà, on va essayer d'améliorer un petit peu, voilà, peut-être que ça va mieux comme ça. Donc, je disais donc deux livres, Les Survivantes et Au Malheur des Dames. On va commencer par parler d'un livre qui m'a vraiment passionnée, vraiment beaucoup intéressée, Les Survivantes. Mais avant, donc je rappelle que, écrivain donc, mais aussi traductrice, psychothérapeute, vous menez ces trois activités de front?
Ah non, ça c'est terminé. La traduction, c'était il y a fort longtemps. Et c'était spécifiquement relié au domaine de l'art contemporain. Le métier de psychothérapeute, j'ai arrêté la pratique. Je continue mes recherches pour écrire, mais je ne pratique plus. Et donc, reste la vie d'écrivain.
La vie d'écrivain, comme on le dit maintenant, vous consacrez entièrement à la littérature.
Exact.
Donc, après une série de romans consacrés à Jeanne Debord, je tiens à dire que le dernier, La stratégie du fou, excellent, est sorti chez Folio en 2008, vous nous sortez un autre personnage féminin, Anne Bauer, tout aussi tenace, tout aussi passionnée par son métier. Elle est légiste à Strasbourg. Et vous situez apparemment, enfin, on ne sait pas trop, mais vous situez votre récit dans un avenir très très proche, lors d'un été caniculaire. Et dans ce roman, il y a plusieurs univers qui sont à chaque fois des points très forts. Le premier, c'est l'univers d'Anne Bauer. Mais plutôt que d'en parler moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train d'arriver à cette légiste, Anne Bauer?
Alors, les survivantes démarrent avec Anne Bauer qui démarre elle-même sa journée de travail caniculaire. Alors, moi, j'ai pas songé vraiment à le placer dans un temps décalé par rapport au nôtre. J'ai simplement légèrement décalé certains paramètres, comme celui du temps, donc avec une forte canicule dans cette ville de Strasbourg qui s'y prête particulièrement bien. Et donc Anne Bauer, elle est à un niveau de sa vie où en fait tous les paramètres de sa vie sont en train de s'effondrer, y compris son psychisme. C'est-à-dire qu'elle est confrontée donc à un travail démultiplié par la canicule, parce qu'il faut stocker les morts. Elle est confrontée à la maladie de sa mère, elle est confrontée à une suite de harcèlement à travers des choses qu'elle reçoit tant chez elle qu'à son bureau, des lettres bizarres, des espèces de poupées ou de perruques rousses, Anne Bauer est rousse, et toute la pression est mise vraiment sur chaque paramètre, sa vie privée, sa vie personnelle, sa vie familiale. Et surtout, elle est la dernière de s'aligner, donc si sa mère vient à mourir...
Elle
est vraiment la dernière.
Elle va être la dernière survivante. Et là, on est vraiment dans un univers où, en fait, Anne Bauer, qui est légiste, donc je dirais cartésienne jusqu'au bout du scalpel, elle va être confrontée avec un univers qu'elle ne peut pas appréhender, elle, si cartésienne, puisque la réalité s'estompe, la folie côtoie la raison. Et on sait en fait jamais vraiment de quel côté du miroir on se trouve. Et ça, je trouve que c'est une très très belle réussite du roman que d'arriver à nous faire rentrer dans je dirais les méandres des idées de Anne Bauer, et nous-mêmes on est complètement déstabilisés par votre écriture.
Bah, ça me fait très plaisir parce que ça fait vraiment partie d'un des objectifs que j'avais pour ce roman. C'était vraiment d'arriver à, non pas à brouiller les frontières, mais à faire qu'on puisse, un petit peu comme on trouve dans la littérature sud-américaine, on passe d'un bord à l'autre vraiment sans couture, jusqu'à ce qu'on comprenne qui est qui et pourquoi cela advient.
Alors Anne Bauer, elle va aussi être confrontée, on peut pas dire à une espèce d'enquête, mais à un mystère. Elle va devoir chercher des dossiers et elle va être en fait toujours entre plusieurs feux. Qu'est-ce que vous commencez quand vous partez sur une idée de roman? Je suppose que vu votre métier de psychothérapeute, on doit souvent vous demander est-ce un cas réel? Est-ce que vous avez rencontré? Moi, j'aurais plutôt envie, par quoi vous abordez? Est-ce que l'histoire, l'atmosphère ou un cas?
Alors, c'est le personnage en fait. C'est-à-dire que bon, je pars toujours de l'état du personnage, hein, l'état de son passé, l'état de son présent et le bout de futur que je vais développer pendant le récit. Ce qui m'intéressait avec le personnage d'Anne Bauer, c'était que ça soit vraiment un personnage très pragmatique, cartésien, habitué à ce que la réalité, effectivement, soit son lot quotidien et qu'elle ait une certaine forme de maîtrise permanente des choses. Je voulais la mettre dans une ville qui soit plutôt cosy, agréable, malgré le facteur canicule, qui soit qui est un petit centre-ville, d'où le choix de Strasbourg, parce que je voulais pas la situer dans une ville qui serait moche
ou une mégapole.
Voilà, pour bien que le lecteur reste avec la question, est-ce que c'est elle qui regarde le monde, et au fur et à mesure, le monde s'en est dit à travers son regard, c'est-à-dire tout s'effondre, et ce qui m'intéressait, c'était cette progression. Alors je la prends, elle va déjà assez mal, hein, donc la progression est relativement rapide, en réalité, dans la réalité, ça prendrait beaucoup plus de temps, et elle est littéralement rongée par différents niveaux de culpabilité et de doute, hein. Culpabilité dans sa vie personnelle et doute concernant ses vieilles affaires d'autopsie.
Voilà, et puisque l'on en est au personnage et que vous semblez si attaché au personnage, autour d'elle vont l'aider. Donc il y a Laure Bélanger qui est une psy, qui a d'ailleurs côtoyé un ancien personnage que vous avez beaucoup de mal à quitter, Jeanne Debord.
Voilà.
Il y a Franck Albertini, un flic vraiment bien abîmé. Enzo Marquez, et puis il y a moi, un autre personnage qui apparaît à des moments et qui prend de plus en plus d'importance et que j'aime beaucoup, c'est Lou Werfel, ou Werfel, je ne sais pas.
Je dirais Werfel, oui.
Werfel. Vous nous la racontez, ce personnage, je l'aime beaucoup, moi.
Alors voilà, j'avais envie, mais ça fait partie un peu de mes récurrences et de mes obsessions d'écrivain. Il y a toujours dans mes romans un ou plusieurs marginaux, qui soient marginaux socio-économiques, qui soient marginalisés par leur physique, par leur manière de regarder le monde. Et Lou Werfel, c'est une fille brillantissime, qui travaille donc elle aussi à l'hôpital où travaille Anne Bauer. Et elle a simplement, dans la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a un physique excessivement disgracieux. C'est-à-dire que les gens ne voient jamais d'elle que ce qui est laid. Et ça lui pose évidemment beaucoup de soucis, ça provoque aussi des douleurs, des révoltes. Et j'avais très très envie de mettre en scène un personnage qui dans les yeux des autres provoque un certain nombre d'états, comme la répulsion, comme le rejet, comme l'envie de détourner le regard.
Oui, et presque la pitié des fois, enfin souvent la pitié aussi.
Parfois la pitié, et que ce personnage-là soit suffisamment complexe pour par moments vouloir abdiquer au bon vouloir de la société, c'est-à-dire une forme de formatage physique, tel que nous en bassinent les magazines féminins, par exemple.
Par exemple.
Pour ne citer que. Et qu'elle soit à la fois dans des sentiments qui sont contradictoires mais qui fonctionnent bien ensemble, c'est-à-dire de la tristesse, du chagrin, de la révolte, mais jusqu'à avoir envie de tuer les gens qui la mettent toujours au banc de la société.
Et Lou Werfel, en fait, elle représente aussi un peu, je dirais, une métaphore, parce qu'il y a ce côté apparence, donc ce côté disgracieux, ouais. Et puis derrière, une beauté intérieure qu'elle
Exactement.
Va pouvoir développer, en dehors de son intelligence et de sa finesse. Donc là encore, on a, de la même façon qu'on parlait tout à l'heure, vous travaillez beaucoup sur les frontières. Tout à l'heure, on parlait de la réalité et de la folie, des apparences. Et puis là, il y a l'apparence physique et puis le vrai être du personnage.
Tout à fait.
On est toujours dans les frontières. Autre frontière qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, c'est le côté très lumineux de cette ville, donc sous cette canicule. Et puis, pour les besoins d'un dossier de recherche, vous nous entraînez, à l'aide d'un personnage, Enzo Marquez, dans les labyrinthes des archives de l'hôpital. Alors, je me suis demandé à un moment donné, mais c'est peut-être aussi mon cerveau qui délire un peu, si ces labyrinthes, ce parcours labyrinthique, c'est pas aussi une métaphore du cerveau humain ?
Si, mais je travaille beaucoup. En fait, quand on me pose la question, est-ce que j'utilise des éléments de ma formation et de ma pratique psy, c'est plutôt que de m'inspirer de cas réels, même si forcément je reprends des bribes de choses diverses et variées que je mixe. Hein, c'est surtout ces aspects-là du domaine de la psy que je travaille. Là, vraiment, là, tout ce qui est de l'ordre de la symbolique, hein, voire de l'allégorie, chez moi, c'est dans tous mes romans, on retrouve ça. Et là, là je confirme la bonne intuition.
Voilà, donc on va s'enfoncer dans ces méandres et on va y découvrir, alors là aussi, un mot que je n'aime pas trop, mais qui convient très bien, parce que là aussi, on va avoir une dualité, c'est on va aller à la rencontre de monstres, on va pas aller plus loin dans l'explication, mais on a des monstres des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a des monstres dans la lumière, qui sont de brillants chercheurs, qui vont se permettre des choses pas très très jolies. Et puis des monstres dans la pénombre que vous opposez mais que vous n'opposez pas, que vous mettez face à face et qui sont en fait là encore un petit peu une métaphore de notre société, je trouve.
Oui, je pense vraiment que je suis assez perplexe alors d'un point de vue très très comment dire au premier sens du terme, je suis assez perplexe parfois sur où la recherche entraîne parfois les chercheurs. Mmh. Comment on utilise l'humain pour faire évoluer la recherche. Est-ce qu'on peut faire autrement? En fait, moi, j'en sais rien. Mais tout ce qui est de l'ordre, pas forcément même des abus, mais simplement le fait de décréter qu'on va manipuler un psychisme ou un corps pour faire évoluer des médicaments, des moyens d'intervention chirurgicaux et tout, moi, m'interpelle constamment. Hein. Et c'est vrai que j'ai toujours une envie de travailler là-dessus et que je constate que très souvent, le facteur humain, finalement, disparaît derrière un certain nombre d'autres d'intérêts. C'est pas une nouvelle.
Mais c'est vrai que c'est intéressant et je trouve que le roman noir est en particulier là pour le dénoncer, dénoncer ses dérives.
Je pense aussi, oui. Je pense aussi d'autant que ça mérite, et il y a beaucoup de gens qui s'en emparent, un niveau d'enquête et d'investigation certain, ce qui n'est pas mon travail à moi.
Hein. Non,
moi,
non, là vraiment... on est nous complètement dans la, enfin vous complètement pardon, dans la fiction,
exact.
Et dans le roman.
Néanmoins, c'est vrai que je m'intéresse à pas mal de choses, on va dire d'un point de vue de la vulgarisation au niveau de la recherche, et que beaucoup de questions me troublent. Beaucoup de questions me troublent.
Et on ne trouve pas forcément les réponses dans les médias officiels.
Exactement.
Alors, pour prouver qu'on est bien dans la fiction et qu'on est bien dans un univers littéraire, une chose aussi qui est égrenée tout le long de ce roman, c'est les notes de la Traviata qui s'évadent régulièrement dans les rues. Ouais. On comprend pas pourquoi, bien sûr, on va voir la solution à la fin. Ça donne un petit côté surréaliste au récit. Et je trouve que le surréalisme va bien avec l'univers des rêves, qui est quand même un de vos terrains de prédilection, me semble-t-il.
Ah, complètement. Je pense qu'il n'y a pas un de mes romans et de l'autre côté de ma vie d'écrivain, de mes essais, où je ne m'intéresse pas à ce sujet qui me passionne depuis toujours, hein, et qui fait partie intrinsèque de la vie des humains. et qui pareil nous promène d'une frontière à l'autre.
Voilà, on est encore au niveau de la frontière. Alors, je disais tout à l'heure, enfin, voilà pourquoi moi j'ai imaginé, parce que c'est toujours pareil, le lecteur met son imaginaire dans ce qu'il lit, j'ai imaginé un avenir très très proche, puisque il y a dans cette ville une politique ultra sécuritaire. Ça, c'est pas dans un avenir proche, on y est complètement.
Non, on y est.
Mais par contre, vous inventez quand même des choses qui ont déjà existé, des espèces de miliciens, ces citoyens volontaires, hein, voilà, c'est ça, les citoyens volontaires, qui nous rappellent des époques bien terribles et peut-être en fait tout simplement l'époque que l'on vit actuellement.
Mais alors là, Corinne, il faut que je vous dise que je ne l'ai pas inventé, j'ai juste inventé le brassard qu'ils ont au bras.
D'accord.
Voilà, donc je vous invite, vous et vos éditeurs, à par exemple aller fouiller dans les archives d'un site d'information assez connu qui s'appelle Rue 89, où j'avais trouvé un témoignage d'un citoyen volontaire, ainsi qu'un certain nombre d'informations et d'articles. Et puis, il y en a aussi en Italie.
Oui.
Et voilà, je crois que c'est une
réalité. Je crois qu'il y en a aussi dans ces résidences très fermées américaines aussi.
Voilà, et qu'il faut vraiment prendre en compte, qu'on trouvait à un moment donné dans une autre forme de littérature, l'anticipation, voire la science-fiction bien entendu, mais qui est, ou alors carrément le roman historique, mais qui est à nouveau d'actualité.
Ouais, tout à fait. Alors, l'actualité aussi, c'est les mésaventures qui arrivent à votre deuxième roman dont on peut parler actuellement. Donc, je rappelle, ça s'appelle Au bonheur des dames.
Au malheur.
Au malheur, pardon. Oh, bah, décidément, si je remarquais la comparaison avec Zola, j'espère, ne vous embête pas.
Pas du tout.
Voilà, donc aux éditions Paris-Gramme. Et donc, une publicité dont vous passeriez bien, puisque l'action se passe au marché Saint-Pierre et que, comme c'est un roman noir, il va y avoir des histoires pas très nettes, vous êtes en train d'être poursuivi pour, je cite, « diffamation, injure et préjudice pour atteinte à l'image par les dirigeants du déballage Dreyfus ». Je précise que vous êtes poursuivi, vous et l'éditeur aussi. Donc, oui, où en est cette histoire un peu sordide ?
Alors, cette histoire, mais pour l'instant, on est un peu dans la période calme après beaucoup d'effervescence depuis le jour de l'assignation j'ai dû recevoir mon assignation vers le 10 février de mémoire. Et alors, on n'est pas attaqué que pour ça, on est également attaqué pour complicité avec d'anciens employés du marché qui m'auraient téléguidé pour je ne sais quelle sombre affaire.
Donc là, la paranoïa marche bien.
Là, c'est moi qui ne sais plus où sont les frontières, parce que pour une fois, c'est pas moi qui les ai posées, elles sont posées par la citation. Tout ça est assez troublant et inquiétant.
Hein. Voilà, moi, c'est ce dont je voulais parler. On compatit bien évidemment à ces ennuis judiciaires, parce que on a quelques histoires en ce moment, aussi bien dans le roman noir que dans les autres genres littéraires, qui font frémir. Mais là, nous, amoureux des romans, on se fait très très peur, parce qu'on se dit où commence la censure.
Alors, elle est déjà là par la force des choses, puisque la plainte est recevable. Est dans un état de droit qui autorise cela. Dès lors que la plainte est recevable, on va aller en procédure. Ce sont des longues procédures qui réclament de l'argent, du temps. Enfin, juste, moi, j'ai autre chose à faire que d'aller au pénal. En plus, hein, on est assigné au pénal.
Au pénal, oui.
Pour défendre une pure fiction, où je fais en fait exclusivement mon boulot de romancière. C'est pas un procès à charge contre le marché Saint-Pierre, ce n'est pas un document d'investigation, c'est une pure fiction.
Que vous situez au marché Saint-Pierre parce que, d'abord, il y a certainement beaucoup d'intérêt, et puis la collection dans laquelle est parue Au malheur des dames, je précise, donc correspond à un endroit de Paris, et c'est cette collection qui le veut.
Voilà. Ouais, c'est ça. Le but, c'est que chaque auteur s'empare d'un lieu emblématique, voilà, ou d'un élément typiquement parisien, et en fait une pure fiction policière. Alors là où la censure est déjà là, c'est que les plaintes et les assignations contre auteurs n'ont cessé d'augmenter depuis 5 ans, ce que j'ai découvert moi-même en étant assignée. La question que ça soulève, c'est on est en train de nous reprocher de faire simplement notre métier.
Oui,
c'est-à-dire nous emparer d'un décor ou d'un élément du réel hein, pour s'en défaire tout en l'intégrant et installer une histoire qui, bien entendu, n'a aucun lien avec la réalité, si ce n'est qu'elle s'inscrit dans un décor identifiable. Alors, ce qui est identifiable dans Au Malheur des Dames, c'est pas seulement l'ancien déballage Dreyfus, hein, puisque je précise pour vos auditeurs que les gérants ont changé, semble-t-il, ces dernières années. C'est aussi toutes les rues autour de ce bloc d'immeubles, en bas de la butte Montmartre. C'est aussi tous les autres boutiques, le café du coin, le Sacré-Cœur. Hein. Et comment vous dire, si on ne peut plus s'emparer des décors,
oui, on va faire que de la science-fiction.
Voilà, parce qu'on n'écrit pas dans les terres.
Hein. Ouais, non, c'est voilà. Non. Et puis il y a quand même en dehors du décor, il faut quand même resituer le roman noir dans son genre littéraire et dans sa définition même. C'est quand même la description de la société dans laquelle on est, dans laquelle on vit, où on va avoir quand même des histoires qui se rapprochent peu ou prou d'une réalité que l'on côtoie au quotidien, mais qui reste dans le genre complètement fictionnel.
Tout à fait, d'autant que en dehors du titre qui est un, c'est vrai, qui est un clin d'œil à Zola, qui est un écrivain qui a conté quand j'étais plus jeune et que j'étais boulimique de littérature, ce que je suis toujours d'ailleurs, mais c'est vraiment, il y a des œuvres majeures, autant Zola, lui, c'était vraiment une attaque et une remise en question d'un système socio-économique hein, à l'époque, autant moi, c'est plutôt l'évocation d'un quartier. Quartier dont l'atmosphère et la manière de vivre, de respirer au quotidien change depuis quelques années. C'est-à-dire que c'est vraiment pris entre tradition et modernité, et je ne jurerais pas que dans 20 ans ce quartier ressemble à ce que j'en ai décrit.
Eh bien, malheureusement, le temps est parti, comme on dit, est terminé. Donc, il me reste à vous remercier et à citer Les Survivantes aux éditions Actes Sud, Au Malheur des Dames, édition Paris-Gramme. Lali Walker, merci beaucoup. Bon été.
Un grand merci à vous. Bon été aussi.
Au revoir.